Paris, Berlin, Prague, dans toute la France et dans toute l'Europe, se multiplient des manifestations massives de soutien au peuple ukrainien qui résiste courageusement à l'agression de Vladimir Poutine. Au même moment, le président ukrainien Zelensky a demandé à l'Union européenne d'intégrer sans délai son pays. Alors la solidarité doit-elle aller jusqu'à accueillir tout de suite l'Ukraine au sein de l'UE ? Inquiets de la menace russe, d'autres États comme la Géorgie et la Moldavie ont déposé eux aussi cette semaine une demande d'adhésion. Ces pays riverains, mais aussi la Pologne, la Finlande ou les Pays-Baltes, redoutent une contagion du conflit. Peut-on craindre une extension de la guerre en Europe ? On en débattra. Enfin, nous conclurons ce petit tour de l'actualité avec la photo de la semaine de Paola Pueyrari, qui nous racontera comment une arme fournie par les Américains à l'Ukraine est en train de devenir un symbole de résistance.
Bonsoir Michel Tchaninov.
Bonsoir.
Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Vous êtes donc essayiste, philosophe, rédacteur en chef du mensuel Philosophie Magazine, grand spécialiste de la Russie en particulier. Vous avez notamment écrit il y a quelques années ce livre « Dans la tête de Vladimir Poutine » aux éditions Babel, un livre dont d'ailleurs une réédition, une version actualisée va paraître d'ici 2 à 3 semaines. Justement, dans la tête de Vladimir Poutine, essayons d'y aller un instant parce que malgré les précédents, l'annexion de la Crimée, la guerre dans le Donbass, personne ou presque en tout cas n'avait anticipé une invasion massive de l'Ukraine telle que celle qu'a mise en œuvre Vladimir Poutine. Tout le monde a été surpris. Sauf vous, j'imagine, puisque vous étiez dans la tête de Vladimir Poutine.
Non, en fait, je n'ai pas de méthode psychiatrique. C'est-à-dire, ma méthode, c'était véritablement d'analyser les discours de Poutine depuis longtemps, de voir quelles références il mobilisait et finalement, quelle vision du monde il essayait de proposer à son peuple et puis aux sociétés du monde entier. En fait, ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est qu'il y a une cohérence énorme dans son discours. C'est-à-dire que ce qu'il a dit le 3 jours avant d'envahir l'Ukraine, ce qu'il a dit le matin de l'invasion de l'Ukraine, c'est quelque chose qu'il répète, qu'il dit, qu'il décline depuis des années. Il dit par exemple que les Russes et les Ukrainiens sont des peuples frères, même plus un seul et même peuple, mais que les Ukrainiens ont des dirigeants qui sont des néo-nazis. Ça, il le dit depuis très longtemps. Et donc à sa vocation à faire que les Russes viennent libérer les Ukrainiens. Il dit une deuxième chose, il dit que les Russes ont une sorte de passionnarité, de force vitale dont les Occidentaux sont jaloux. Donc les Occidentaux vont essayer de tout faire pour nous pousser dans un coin, comme dit Poutine. Eh bien nous allons nous ébrouer, nous allons faire ce que nous devons faire, notre mission historique. Donc ce qui est vraiment frappant, c'est qu'en fait ce qui s'est passé aujourd'hui, qui est quand même un énorme passage à l'acte, moi je ne m'attendais pas à ce que ça soit si énorme qu'une invasion massive, vous voyez. En même temps, c'est complètement logique.
Pour autant, voilà. Aussi tragique soit-elle, cette invasion était en quelque sorte assez prévisible, en tout cas pas si surprenante que ça. Tout de suite, on va commencer par regarder votre portrait, Michel Tchaninov. Il est signé, comme chaque samedi, Philippe Ridet et il est lu par Amira Soulem.
Mon cher Michel El Tchaninov, vous le sentez ce fumet de bœuf Stroganov ? C'est le parfum de votre enfance. Papa, professeur de russe aux langues zo, maman, femme au foyer, cet enfant, ça occupe. Les parents de vos parents ont fui la révolution de 1917. Dans votre ascendance, on trouve un officier de l'armée blanche et un prêtre orthodoxe. Ils viennent de Saint-Pétersbourg, Moscou, Tbilissi. La Russie perdue les hante. Chaque soir, votre père vous récite des vers de Pouchkine. Le jour, il dirige une association pour venir en aide aux premiers dissidents. Vous passez vos vacances dans des colonies, accueillant des enfants de l'immigration. On parle russe à la maison. Peut-être écoutez-vous Gilbert Bécaud.
La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis.
À 16 ans, vous faites votre premier voyage vers cette mère patrie qui n'est déjà plus vraiment la vôtre. Coïncidence, la perestroïka s'installe à Moscou. D'autres horizons vous attirent loin de la Russie rêvée de vos ancêtres. Vous aimez le cinéma américain et italien. Pourtant, c'est à Dostoïevski que vous consacrez votre thèse en 1995.
C'est dans le domaine de ces interrogations philosophiques que la lecture de Dostoïevski fut la plus féconde.
Faute de poste à l'université, vous bifurquez vers la presse. Un journal, Philosophie Magazine, cherche son rédac-chef. Bingo, ce sera vous. La philosophie, dites-vous, est une alternative à la confrontation dans un monde où les opinions se heurtent. Ça peut servir par les temps qui courent. Vous avez repris le flambeau de votre père, défendant les dissidents dont le cinéaste Oleg Sentsov.
C'est devenu en fait un symbole mondial aujourd'hui de finalement quelqu'un qui s'oppose à l'autoritarisme de Poutine.
Prémonitoire en 2015 déjà. Vous nous avez invités à une virée dans la tête de Vladimir Poutine. Alors que la nuit tombe sur l'Ukraine, quelque chose me dit, mon cher Michel, qu'on aura besoin de vos lumières.
Alors Michel Tchaïnov, alors que Vladimir Poutine a lancé une offensive massive sur l'Ukraine, que l'armée russe continue d'avancer sur un certain nombre de villes et aussi sur Kiev, quels sont selon vous les buts de guerre de Vladimir Poutine? Est-ce que c'est d'abord, est-ce qu'il y a une dimension en quelque sorte nostalgique dans cette offensive et dans son projet? Est-ce qu'il s'agit pour lui de reconstituer, de reconstruire la grande Russie d'antan?
Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, il a vraiment une vision historique qu'il a développée. Il dit que l'Ukraine est un État artificiel créé par Lénine en 1922, quand l'Union soviétique a été créée, et qu'il n'a pas de raison d'être, au fond. C'est-à-dire que pour lui, l'Ukraine, c'est un État dont au moins la rive orientale du Dniepr appartient historiquement aux terres russes. Et ça, il le dit, il le répète. Ensuite, donc, je pense qu'il veut au moins faire en sorte que cette Ukraine soit coupée en deux, la partie occidentale, la partie ouest, allant ailleurs qu'une sorte de petit territoire ukrainien qui n'a aucun intérêt, et l'autre partie ayant vocation à rejoindre la Russie de manière plus ou moins proche. Sur ces buts stratégiques, il est très clair, il y a deux mots, c'est dénazification, puisque Vladimir Poutine, sa rhétorique, c'est de dire depuis longtemps que ce sont des nazis qui ont pris le pouvoir en Ukraine. On sait que le président Zelensky est d'origine juive et que ses grands-parents étaient juifs et trois frères de ses grands-parents.
Il agite un peu le mythe de la Seconde Guerre mondiale. Hein,
Complètement. Voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, il revivifie un mythe que lui-même a vécu quand il était enfant. Souvenons-nous que Poutine est né en 1952 dans Leningrad après un blocus atroce par les nazis, que son grand frère était mort pendant le blocus. Et donc, on dirait qu'il rejoue le mythe.
Mais est-ce qu'il y croit ou est-ce que c'est simplement employé à des fins de propagande? Est-ce qu'il a fini par croire à ce qu'il dit?
Moi, quand j'ai vu le discours de jeudi soir, d'avant-hier, j'ai vu un discours où Vladimir Poutine, pour la première fois, a dit que ce n'était plus une opération spéciale, mais une guerre. Et il a raconté l'exploit d'un officier venant du Daghestan. Et Vladimir Poutine a utilisé toute la rhétorique du récit de guerre soviétique. Mmh. C'est-à-dire, tous les peuples de la Russie s'assemblent pour se battre de manière héroïque contre des nazis qui utilisent des boucliers humains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la télévision russe explique que les victimes civiles en Ukraine sont victimes, en fait, ce sont des boucliers humains qui sont pris en otage par les nazis ukrainiens. Mmh. On est dans une fantasmagorie totale qui, jusqu'à maintenant, était faite pour exalter le peuple, qui aujourd'hui devient un petit peu inquiétante, parce que en regardant ce discours, j'ai l'impression que Vladimir Poutine y croit.
Ouais. Est-ce que d'après vous, aujourd'hui, politiquement ou autrement, est-ce que Vladimir Poutine peut être renversé?
Alors c'est très compliqué, parce que d'abord, il a créé en 2016 une garde nationale qui comprend 340 000 hommes. Mmh. Donc une garde nationale avec un chef qui est entièrement dévoué à Vladimir Poutine. Mmh. Ensuite, légalement, c'est très difficile de le décider.
Dans son entourage, est-ce que quelqu'un peut l'arrêter, le stopper? Est-ce que les oligarques peuvent avoir un pouvoir d'influence, justement?
Alors, les oligarques,
comme on a pu le dire ces derniers jours,
n'ont plus vraiment de pouvoir d'influence politique en Russie, parce que depuis les années 2000, Vladimir Poutine leur a montré leur place. Ouais. Faites des affaires, restez évidemment parfaitement loyaux au Kremlin. En attendant, et depuis notamment l'annexion de la Crimée en 2014, ils ont eu le temps de mettre une partie de leur argent en sûreté dans des paradis fiscaux.
Donc ils ne sont pas tellement menacés par les sanctions économiques qui sont appliquées.
En tout cas, ils vont garder une grande partie de leur argent dans les paradis fiscaux. Non, le cercle proche, c'est ce qu'on appelle le Conseil de sécurité. C'est-à-dire vraiment les très proches. Ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, chef de la sécurité extérieure, premier ministre, etc. Chef du Sénat, président du Sénat, etc. Eux, c'est véritablement ceux qui sont le cercle proche. Lundi 21 février, Vladimir Poutine a mis en scène quand même une scène hallucinante où il a demandé à tous les membres du Conseil de sécurité, vous l'avez vu et commenté, de dire s'ils étaient d'accord avec la reconnaissance des deux républiques. Il y a eu un homme qui a hésité. Le chef des renseignements extérieurs.
Bien mal lui en a pris.
Narishkin. très beau, aristocratique, très renseigné, c'est son travail, qui lui a dit, mais on peut laisser encore une chance à l'Ukraine de respecter les accords de Minsk. Eh bien là, alors je pense que Narishkin, aujourd'hui humilié publiquement par Poutine, n'a sans doute pas le pouvoir de renverser Poutine, mais on a senti certaines hésitations parmi ses proches. Je pense que ça ne suffit absolument pas pour rêver d'un renversement de Vladimir Poutine aujourd'hui.
Alors Michel Tchaïnov, parmi vos engagements, vous êtes engagé aux côtés pour défendre ceux que vous appelez les nouveaux dissidents, d'ailleurs avec votre association. On a une archive à vous montrer, on va remonter dans les années 80, pour évoquer celui qui fut à l'époque, dans les années 80, sans doute le plus célèbre dissident du régime soviétique.
Oui, effectivement, un homme pour la Russie de Vladimir Poutine. Son seul mérite, c'est d'avoir été le père de la bombage pour le reste du monde, pour tout le reste du monde, ou presque. C'est surtout un défenseur acharné des libertés. Il s'agit donc du grand physicien et prix Nobel de la paix Andrei Sakharov. Dans cet archive qui date de 1986, il vient tout juste de sortir de 7 ans d'exil forcé et sans procès. Ses premières pensées et ses premiers mots ont été pour les autres dissidents. On regarde.
Quelle épreuve pour Andrei Sakharov, un bain de foule après 7 ans d'un isolement presque complet à Gorki, ville située à 400 km de Moscou et interdite aux étrangers. Le prix Nobel n'a plus l'habitude de parler, mais dans ce surprenant cortège, il sait bien exprimer ses convictions. Je suis heureux d'être à Moscou, mais je pense au destin tragique de mes amis restés dans les prisons et dans les camps, explique Sakharov. Mon ami Marchenko surtout, l'écrivain qui est mort en martyr des droits de l'homme. Il faut sauver tous les autres. Je lutterai de toutes mes forces pour la liberté.
Lui-même est décédé 3 ans plus tard, en 89, je crois. J'ajoute que l'ONG, une ONG très très importante qu'il avait fondée, qui s'appelle Mémorial, elle a été dissoute par le gouvernement russe, par Poutine, en décembre dernier, en vertu de cette fameuse loi qu'on a beaucoup commentée ici, cette loi sur les agents de l'étranger. Quels seraient aujourd'hui les héritiers de Sakharov, j'entends par là, dans leur mode d'action et surtout dans leur quête de vérité, parce que c'est ça peut-être être dissident aujourd'hui en Russie aujourd'hui, c'est chercher la vérité et dire la vérité.
Oui, mais Mémorial faisait un travail d'archives extraordinaire sur les répressions staliniennes, mais aussi sur les exactions en Tchétchénie et aujourd'hui sur les prisonniers politiques russes qui existent. C'est-à-dire que c'est un travail d'archives. Vous savez, la dissolution de Mémorial, ça a été fait avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Moi, ça m'a un peu rappelé le meurtre du commandant Massoud avant le 11 septembre. C'était comme un signal.
En Afghanistan.
C'est-à-dire que, exactement. C'est-à-dire qu'une une association aussi respectée, aussi importante comme, je ne sais pas, le Mémorial de la Shoah, pour la Shoah, en Russie, était dissoute tout simplement parce qu'elle déplaisait au pouvoir. Donc aujourd'hui, la nouvelle dissidence, elle va devoir se recréer avec des moyens nouveaux, puisque il y a une coupure de l'information qui va se faire, qui est en train de se faire en Russie. Les Russes vont être totalement isolés de l'information. De plus en plus, ça va être très difficile.
Les Russes, aujourd'hui, l'opinion russe n'est pas informée de ce qui se passe, très clairement.
Elle l'était jusqu'à hier, ou jusqu'à ce qu'une loi soit votée pour dire que la moindre fausse information sur les armées peut coûter de 3 à 15 ans de prison. Et Novaya Gazeta, qui est quand même le journal dont le rédacteur en chef a reçu le prix Nobel de la paix cette année, a dit qu'il n'allait plus publier d'informations sur la guerre. Parce que sinon, ils risquaient tous les journalistes, de 3 à 15 ans de prison. Donc on va se retrouver véritablement face à une nouvelle dissidence en Russie et puis peut-être bientôt en Ukraine s'il est occupé.
Alors Vladimir Poutine n'a pas que des ambitions terrestres, celles qu'on évoquait à l'instant, il a aussi, j'allais dire, des ambitions célestes, en tout cas spatiales, Jean-Mathieu.
Et oui, parce que c'est vrai que quand on voit le niveau de tension actuellement, on se demande si c'est une bonne idée d'envoyer dans une boîte de conserve volant en orbite au-dessus de la Terre, eh bien 4 Américains, 2 Russes et 1 Allemand. Voilà, enfin, je pose la question parce que c'est vrai que le vol de la Station Spatiale Internationale et de son équipage, ben, c'est pas interrompu avec la guerre en Ukraine, mais une tension s'est fait sentir sur Terre à propos de cette mission. Après l'annonce des premières sanctions contre la Russie, eh bien, le patron de Roscosmos menaçait carrément de faire cracher l'ISS. Moscou gérant une partie des moteurs de la station. Il est aussi possible que la structure de 500 tonnes s'écrase en Inde ou en Chine. Voulez-vous faire peser cette menace sur eux ? A tweeté Dimitri Rogozin. Alors la NASA et l'Agence spatiale européenne ont calmé le jeu, mais aujourd'hui, rares sont ceux véritablement qui parient sur l'avenir des missions communes russo-occidentales dans le futur. Est-ce que ça veut dire que le conflit, véritablement, peut s'exporter dans l'espace ?
Il est apparemment aujourd'hui exporté dans cette boîte de conserve, comme vous dites. Ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine est l'héritier d'une forme de messianisme russe, qui est une petite partie de la culture russe, c'est pas toute la culture russe, bien heureusement, j'oserais dire, qui considère qu'en fait, la Russie a la vocation à être plus qu'un pays, à être une idée. À une idée qui doit s'exporter sur Terre, s'il le faut, par l'armée, ou dans l'espace, par la conquête spatiale. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a une sorte, effectivement, d'extension de cette idée russe partout. Et pour Poutine, la conquête spatiale, c'est pas uniquement une question scientifique et technique, c'est bien autre chose. C'est l'idée que la Russie a vocation à être céleste. Et en cela, il fait référence à un mouvement qui s'appelle le cosmisme, où il considère que, en fait, il y a